manière ouais, et les sensations.
On ne peut pas vivre la vie de quelqu'un, mais quand on écoute le récit de quelqu'un qui a vu la guerre, ouais, qui a vécu la guerre, on a envie de rien.
Moi, je vais un petit peu quitter le sujet. Je voulais revenir à ce que votre collègue au fond il avait dit sur les problèmes que vous avez rencontrés par rapport au foyer. Il nous a dit qu'ils ont plusieurs fois détruit vos foyers ou ils vous ont réaménagé. On va dire ils vous ont pas laissé libre de faire ce que vous vouliez. Bah c'est quoi les raisons de ça? Parce que pourtant vous avez fait du bien. Dans un sens, ça veut dire qui ces personnes et pourquoi.
Là, je vais laisser Djibril faire.
Voilà, je vais. Il faut comprendre que depuis quelques décennies, l'État a lancé un vaste mouvement de transformation des anciens foyers de travailleurs migrants. Par foyers de travailleurs migrants, pour les subsahariens, les foyers étaient constitués principalement, par exemple ici, de personnes d'origine sénégalaise, mauritanienne et parfois malienne. En région parisienne, plusieurs foyers étaient constitués de Maliens, de Sénégalais, de Mauritaniens, etc., etc. Donc, depuis quelques décennies, donc, l'État a décidé de transformer ces foyers-là en résidence sociale. Pourquoi? Parce que les migrations ont changé. Avant, c'était population-là qui migrait. Aujourd'hui, avec la situation mondiale que nous connaissons, on a des Afghans, des Syriens, etc., etc., etc. Mais par là même, il fallait quand même continuer à sauvegarder, on va dire, la manière de vivre des anciens qui étaient là, ces anciens que vous voyez là aujourd'hui. Sauf que des structures comme Adoma, Coalia, qui sont gestionnaires de foyers ou de résidences sociales, leur manière de vivre ne les intéressait pas vraiment, on va dire, pour résumer. Donc, il a fallu se battre pour essayer de sauvegarder un maximum leurs droits. Ces droits-là, c'est ce que M. Camara expliquait tout à l'heure. Ils avaient disposé de lieux, de salles de prière, des espaces de rencontre, des espaces de vie qui n'arrangent vraiment pas les nouveaux administrateurs. Donc, petit à petit, ils ont bâti, on va dire, ils ont mis des plans, ils ont fabriqué des résidences sociales qui disposent de moins en moins de ces lieux-là. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, le dernier foyer qui reste aujourd'hui à Rouen, c'est le foyer Moïse. Au 14 rue Moïse, voilà, c'est au bout de la rue du Renard. Donc, les négociations sont en cours pour essayer au moins de garder ce lieu-là, l'esprit du foyer. Globalement.
Voilà. Étant délégué, comme les conseillers qui sont, M. Camara qui était délégué aussi, on nous avait embarqué dans un plan qui, soi-disant, nous convenait, parce que bon, ils ont dessiné pas mal de choses, comme M. Camara l'a résumé tout à l'heure. La restauration devait de ce côté-là, finalement, ils ont permuté. Non, en bas, c'était des salles de séjour. Il y avait une salle de séjour, et puis il y a une grande salle dite polyvalente, hein, parce qu'il ne fallait pas dire mosquée, il fallait dire salle polyvalente, nous utilisons pour nos prières. Mais ils le savaient, hein, parce que c'est eux qui nous ont autorisés à le faire. Mais bon, depuis le Covid, ils ont fermé, ils ont trouvé le prétexte de ne plus l'ouvrir, quoi. Mais sinon, comme disait M. Camara, effectivement, au départ, ils nous ont fait miroiter pas mal de choses, mais finalement, bon, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, quoi. Ils ont construit ce qui était à leur convenance. Pour eux, la population dite immigrée ne les intéressait plus, puisque ce qui les intéressait, c'était plus ou moins les réfugiés politiques, réfugiés économiques, dont l'État prenait en charge tout. Autrement dit, à la fin du mois, ils étaient sûrs et certains que l'État allait avancer l'argent, quoi. C'est pas l'immigré qui devait un loyer ou deux loyers derrière, quoi. Voilà, c'était plus cette vie-là, parce que nous, on voulait que ça garde l'esprit du foyer, puisqu'on s'est battu, on s'est vraiment battu. Matin, midi, soir, aussi bien avec la préfecture, avec la mairie, enfin, c'est un conglomérat de mafias, quoi. Ils sont tous ensemble. À les entendre, on croyait que c'est des trucs différenciés, mais non, quand il s'agit d'intérêts, ils sont ensemble, quoi. Ils forment un bloc, et puis finalement, on était orphelins, un peu naïf, quoi, pour ne pas dire.
On sait qui s'est profité de la CAF, on va dire. Maintenant, on sait qui.
Voilà, exactement.
Comment vous avez vécu au moment où vous avez dû venir en France? Comment ma question, elle n'est pas très, très claire. Comment vous viviez le fait de devoir venir en France, en sachant, l'histoire de la France vis-à-vis des tirailleurs? Comment vous... Moi, j'ai du mal à imaginer, me dire, OK, il faut que j'aille dans un pays qui a massacré parler une partie de peuple, de mon peuple. Comment vous avez réussi à vivre avec ça en tête, et le fait d'être aujourd'hui ici en ayant ça en tête, en ayant aussi en tête le fait que on vous accueille toujours d'une façon, on essaye encore de vous effacer d'une certaine manière.
Moi personnellement, je peux dire que la France c'était pas mon tasse de thé. Le jour que je suis venu, c'était un samedi. On m'a prévenu que mon billet était prêt, mon passeport était prêt, et je devais embarquer dans le bateau Massalia qui devait partir sur Marseille. Et je suis embarqué en chemise courte avec des tongs et pas de téléphone. C'est comme ça que je suis descendu. C'est comme ça que j'ai débarqué à Marseille. Parce que moi, j'avais mes parents qui étaient ici, ma mère et mon père. Ma mère qui faisait la cuisine ici, qui est le creuset de la nouvelle cuisine qu'on a là. Mais sinon, moi, la France, c'était pas mon truc. Moi, c'était surtout repartir à l'armée. Mais j'avais 17 ans et puis l'armée prenait à partir de 18 ans révolu, quoi. Et puis, il fallait que j'attende une autre fois pour pouvoir être inscrit à l'armée. Puis entre deux, ma mère, toujours celle qui m'envoie mon billet. Et puis voilà, quoi. Un samedi matin, on m'a dit qu'il fallait embarquer, quoi. Et puis je suis venu en France comme ça. Et je peux même vous dire, j'avais 10 000 francs CFA. Je sais pas, c'était 50 francs CFA. Parce que c'était le double, 50 francs CFA. Et je vais donner le billet au taximan et regarder ce que c'était. C'est la France qui fabrique ce billet-là. Mais bon, il m'a embarqué de Gare de Lyon à Saint-Lazare. J'ai pris le train sans billet. Parce que je suis vu les gens passer, je suis passé. Et puis là, finalement, j'ai eu la chance, j'ai pas eu de contrôle. Et j'ai pris mon taxi à la gare de Rouen jusqu'à Stanislas. Voilà comment je suis débarqué. Et j'ai fait 12 jours. Au 12e jour, j'ai trouvé du travail. Une question de conscience, non, je n'avais pas par rapport au massacre de... Je me sentais pas... Concerné. Coupable. Non, pas concerné, mais j'avais pas ce fardeau-là, quoi. Parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans. Quand je suis arrivé en France, j'avais 18 ans. Ces genres de choses-là, on le sent pas tout. Enfin, on le prend pas en charge trop, quoi.
Non, vous m'excusez, je pense que la dame, ce qu'elle a demandé de nous, elle a simplement demandé comment on vit avant et comment on, en quittant deux pays, de venir ici. Vous m'excusez, hein, mais mes mots de français ne sont pas clairs parce que je n'ai pas étudié. Je n'ai pas étudié en français. J'ai pris seulement là quand ils m'ont rentré en France. Bon, je crois que c'est ça. La dame, il nous a demandé. On est quitté au pays pour revenir ici. C'est la pauvreté. Nos parents, ils n'ont rien à part que l'agriculture. C'est agriculture qu'on vit. C'est qu'on cultive. C'est ça qu'on vit. Bon, à part ça, on n'a rien d'autre. Même le transport d'argent qu'on gagne. C'est la famille qui sont venus en France. Mon père avec les cousins, et puis il allait demander, et puis s'il n'avait pas quelque chose pour son fils qui va partir, avoir un moyen pour partir en France. C'est comme ça qu'on est venu. Quand j'ai venu en premier départ, j'ai fait 6 mois à Dakar pour avoir de traverser pour venir en France. Bon, pendant 6 mois, j'ai vécu à Dakar, j'ai pas de travail, j'ai rien de tout. J'ai ma famille qui sont là-bas, c'est eux qui me font vivre. C'est eux qui me donnent de déjeuner, de dîner, tout. J'ai rien d'autre. Bon, comme monsieur l'avait dit tout à l'heure, puis d'aller travailler et de gagner 25 centimes ou 60 centimes, ça, il faut fermer les yeux, parce que tu vas travailler et puis ils t'ont payé que centimes de francs à l'époque. Centimes de francs, c'est comme 1 euro franc en français. Bon, c'est ça qu'on gagne. Bon, nous, on a cherché du travail à Dakar, on n'a pas trouvé. Grâce à la famille qui sont en France, qui m'a envoyé le transport, que je suis venu en France. Quand j'arrive, je travaille, je trouve du travail. Quand je travaille, je rembourse les personnes. C'est comme ça qu'on est venu. Alors que moi, quand je travaille, Djibi, c'est mon neveu, ou bien c'est mon petit frère, que j'ai moyen, que lui aussi, il a l'âge d'aller à charger de quelque chose ailleurs pour sa famille, que je l'envoie son transport. C'est comme ça qu'on est venu en France. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, comme monsieur l'avait dit tout à l'heure, il a dit qu'il est venu en 71 ou en 70. J'ai quitté au village à mes parents en 68. En 68 que j'ai quitté mes parents. J'ai fait 6 mois à Dakar avant de venir ici. En 69, le 4 janvier 69, que j'ai débarqué à Marseille. Et j'ai pris le train jusqu'à Paris. J'ai pris le train jusqu'au Le Havre. J'ai vécu pendant 3 ans. J'ai avec des copains seulement qui me fait vivre jusqu'à le temps que je trouve du travail. C'est comme ça. Voilà, ma connaissance, et puis c'était ça.
Merci pour vos histoires. Et ma question, c'était aussi surtout comment, en fait, on vit avec l'idée d'avoir en tête qu'on doit aller travailler pour vivre, pour survivre. Il faut aller dans un pays qui a massacré notre peuple et qui, en plus, ne fait rien pour nous accueillir. Enfin, ne nous considère pas, quoi, à aucun endroit. Comment on vit avec cette idée-là ?
Oui, voilà, je pense que j'ai bien compris votre question. C'est pourquoi, en fait, on vient vivre dans un pays qui nous a massacrés. Bon, fallait d'abord comprendre, quoi, pour quelqu'un de ma génération, peut-être après, maintenant, ils ont tous compris. Moi, en venant en France, j'avais pas cette idée-là de la France. Si vous voulez, pour certaines populations, en tout cas au Sénégal, comme nous les Soninkés ou les Alpoulards, aller en France à un certain âge, c'était une normalité. Donc, tout cela, pour moi, c'est le fruit du sous-développement et de la colonisation. Donc, il fallait d'abord comprendre, pour répondre à votre question, que la France était méchante. Nous, on ne savait pas que la France était méchante. Parce que, même en ayant été à l'école, on apprenait avec des livres français, donc on ne pouvait pas comprendre certaines choses. On les comprend aujourd'hui parce qu'on est en France, on a accès à pas mal de choses, il y a beaucoup de portes qui nous ont été ouvertes, mais tout cela, il fallait le comprendre. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fruit du sous-développement. Hein, on est dans un pays sous-développé, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à partir. Je pense qu'aujourd'hui, à la télé, les bateaux qui chavirent, on voit ça tous les jours à la télé. Hein, ils veulent tous aller chercher en fait le mieux vivre. Donc pour nous, c'est devenu une culture. Moi, je suis arrivé ici, mes 18 ans, je les ai eus 15 jours après mon arrivée à Rouen. Donc quand on est chez nous, on s'attend un jour ou un autre à partir. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est devenu une normalité. Parce que chez nous, avec le sous-développement, il n'y a pas grand-chose. On se dit, il n'y a pas de travail. Jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est le cas. Il n'y a pas de... 50% des jeunes sont au chômage dans le pays la plupart du temps. Et 30% sont dans les emplois où ils ne gagnent pas grand-chose, globalement.
Toujours pour répondre à votre interrogation, c'est que ce que je vous disais dès le départ, que l'histoire de Tiaroué, c'était pas connu. Enfin, c'était pas archi connu comme aujourd'hui, quoi. C'est certaines personnes qui connaissaient l'histoire, mais le reste de la population voit qu'il y a ces occupations. On leur a raconté l'histoire, ils ont entendu. Est-ce vrai? Est-ce c'est pas vrai? Bon, je crois que après, chacun a sa façon de juger, quoi. Ben, nous, les petits révolutionnaires, enfin, on avait fréquenté des révolutionnaires de 68. Eux, ils nous ont creusé un peu l'histoire. J'ai même d'en parler un tout petit peu. Parce que c'est les étudiants de 68 tard, là, ils étaient informés de la chose. Eux, ils sont au courant. Mais la base de la population, vous savez que l'événement a eu lieu, mais sans plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait juste des informations françaises, plus d'informations françaises que sénégalaises. Je connaissais plus Paris que Dakar, hein, puisque même le journal qui était le plus distribué, c'était Paris-Dakar. On avait plus d'informations de Charles de Gaulle, de Pompidou, que des Fouta et des Jukenchor, quoi. Parce que tout était basé sur la France, quoi. Des gens qui ont vécu comme ça, ils avaient tendance plus à s'occuper des problématiques de la France que de chez nous, quoi. Parce qu'il y avait rien de chez nous. Parce que ce qui se passait à Thiès, personne ne le savait. Par contre, ce qui se passait à Avignon ou à Montpellier, on était au courant, tout de suite. Même pour parler de match, Saint-Étienne, c'était mon équipe préférée. Pourtant, je n'ai jamais mis les pieds à Saint-Étienne. Ça n'avait rien du tout. Mais je connaissais les joueurs de Saint-Étienne et tout. Et voilà, quoi. Par contre, les équipes sénégalaises qui jouaient à Kaolack, je n'avais pas d'informations sur eux. Disons, on était tous braqués sur les infos que la France nous donnait. On se reflétait par rapport à la France. Enfin, jusqu'aux années 60, 70. Hein. Après, les choses se sont inversées puisque les journaux étaient devenus plus à même de parler du pays. À partir de là, les canards, genre canard enchaîné, cafard enchaîné. Alors, de ce fait, ils calculent toujours sur la France. C'est de ce fait-là que certaines informations, les Sénégalais les recevaient de leur pays. Mais avant, tout était la France. Tout. Toutes les informations.
On capte mieux à la radio RFI que les radios, que les radios locales. Hein.
Que les radios, voilà. J'étais au village, je peux capter RFI, mais Radio Sénégal, je ne pouvais pas le capter dans mon bled. C'est pas possible.
Alors, ma question, elle est dans le thème, mais elle est reliée à une période bien spécifique. C'est la période où vous êtes installé en France. Forcément, je pense qu'il n'y avait pas forcément de lieu de culte. Parce que tout à l'heure, on parlait de la salle de prière, qu'on ne peut même pas appeler salle de prière pour les raisons qu'on connaît. Et, je me pose la question. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Moi, j'ai connu la période où il y avait ce lieu de culte qui était ouvert dans l'ancien foyer. Donc, j'étais encore en études, donc ça m'arrivait de fréquenter. Quelques fois. Avec le peu de recul que j'ai, mes 31 ans, je vois que aujourd'hui il y a beaucoup de mosquées à Rouen. Et même si j'estime que c'est pas forcément une bonne chose, on va les classer comme mosquées algériennes, mosquées marocaines, mosquées turques. C'est pas une bonne chose pour moi, ça représente pas du tout ce qui devrait être. Normalement, on devrait avoir une mosquée, une mosquée. Mais je me suis toujours posé cette question. Pourquoi il n'y avait pas de lieu de culte organisé, hein, si je puis dire, en dehors du foyer, comme ça peut l'être pour la communauté algérienne ou la communauté marocaine? Encore une fois, je ne soutiens pas du tout ça. Mais dans les faits, c'est quand même une base aujourd'hui qui, avec les générations, sera retravaillée. Je pense que cette étiquette identitaire ou du moins communautaire, je pense qu'elle sera effacée à un moment donné parce que les jeunes ne sont plus trop dans cette dynamique-là. Mais je me pose la question de est-ce qu'il y a eu des freins, des choses qui ont empêché, par exemple, les Sénégalais, les Maliens d'avoir des lieux de culte dignes de ce nom en dehors des foyers, ou est-ce qu'il y a eu un manque d'organisation entre les Maliens entre eux, les Sénégalais entre eux, et ainsi de suite? C'était ça ma question. Merci.
Pour ce qui est de ce foyer-là, je crois que les choses sont bien passées, parce que c'est des religieux qui habitaient là.
Voilà, qui occupait ici, il y avait une grande salle, il y avait deux parties. Et puis finalement, les immigrés sénégalais et mauritaniens n'habitaient pas ici auparavant, ils habitaient près de Charles Nicolle là-bas. Et puis après, les sœurs allaient déménager d'ici, je crois qu'il y a eu un négoce, et puis ils ont pu acquérir cet endroit-là. Et à partir de là, la grande salle qui servait de prière pour les religieuses a été scindée en deux. Il y avait un côté musulmans et que t'es un chrétien, parce que les Sénégalais, c'est pas tous des musulmans. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Je sais pas si vous avez bien connu, et il y avait une petite séparation entre deux. Il y avait la salle pour les musulmans et la salle pour les chrétiens. Mais par contre, quand il y avait une grande prière, par exemple, pour les musulmans, les chrétiens acceptaient de céder parce qu'ils ne priaient pas tout le temps. Et puis, voilà. Mais du coup, c'était un dortoir. Apparemment, c'était des dortoirs parce qu'il y avait des gens qui habitaient dans des chambrées, puisque c'était des chambrées, c'était considéré des chambrées comme des religieuses, chacun à sa chambre. Les gens qui sont venus en France sans adresse ni quoi que ce soit, des clandestins, si on veut, on leur permettait de coucher dans les salles de prière. De ce fait, ça servait de salle de prière et de dortoir. Mais finalement, ça a été résolu par la construction du deuxième foyer qui était El Hajoma, qui donne dans la rue Renard. Et à partir de là, les gens se sont dit, bon, parce que c'est juste des travailleurs qui venaient travailler, hein. C'était pas l'idée de rester là, de faire toute sa vie. C'était juste travailler, avoir sa retraite et repartir au pays, quoi. C'était pas dans la conception comme maintenant, regroupement familial. Et puis finalement, on se dit, on est fixé, quoi. Et de là, on peut voir plus loin. Ben, ce qui est des mosquées, je crois que, bon, on n'était pas tellement chaud pour ça. Puisque nous, on se contentait. Puisqu'on peut prier dans sa chambre, hein, c'est un problème. Hein, mais le mieux, c'est de se regrouper, de prier ensemble, quoi. Bon, on avait la salle dedans qui ne servait à rien du tout. On en faisait une salle de prière. Mais sinon, c'était pas dans l'objectif de faire une mosquée. Une mosquée, là, c'est pas tellement longtemps, hein, puisque ça coûtait cher. Puis c'était pas seulement l'argent des immigrés, c'était l'argent aussi des pays étrangers qui ont avancé de l'argent quand même, puisque c'était un peu lourd, quoi, pour juste des associations, des choses comme ça. Mais maintenant, il y a des mosquées, mais pour leur construction, ils demandent des subventions, mais l'État français ne voit pas que ça vient de l'étranger. Ah, de ce fait, ils ont du mal à construire. Mal à construire, parce que c'est tellement lourd, c'est tellement cher que là, c'est pas possible, quoi. Bon, nous, c'était par commodité, puisqu'on avait une grande salle en bas qui ne servait que pour des séjours, puisqu'on avait 3-4
90 mètres carrés, quoi. C'était vraiment énorme pour juste discuter. C'est avec l'accord de la préfecture, hein, puisque j'étais témoin, parce que c'est avec l'accord de la préfecture qu'on a pu en faire une mosquée. La seule chose qui nous a été demandée, vu que c'était l'argent de l'État, on ne pouvait pas faire dire mosquée. L'État ne construisait pas de mosquée. Alors, autrement dit, c'était des salles polyvalentes pour tout le monde. Des salles polyvalentes, mais tout le monde savait ce que ça voulait dire. Voilà. Voilà. Jusqu'à ce que le Covid, malheureusement, s'installe. Et puis, ils ont trouvé le bon fond pour le fermer, quoi.
Et en même temps, au foyer Moïse, à la rue Moïse, c'est une des premières mosquées de France. Hein. Donc, cette mosquée, elle a une histoire parce qu'elle a été financée par l'État du Sénégal et l'État de la Mauritanie. Pour aller plus loin, il paraît qu'en échange, l'État français avait demandé à ce qu'une église soit construite à Nouakchott, en échange. Vous voyez, en fait, hein, donc c'est...
Mosquée,
voilà. Mais c'est une salle, on va dire, c'est une grande salle de prière qu'on appelle mosquée, tout simplement, et qui existe toujours d'ailleurs. Non, mais ça fera partie des négociations. Donc l'idée, c'est que avec toutes ces batailles qu'on a menées ici, à Stanislas, à El Hadjoumar, bataille qu'on a perdue, mais c'est de servir de cette expérience-là pour Moïse, tout simplement.
On va devoir finir cet entretien. Moi, j'avais juste une dernière question. Enfin, je vais plutôt vous inviter si vous avez des questions à poser aux jeunes. Enfin, je ne sais pas si vous avez des questions à leur poser.
Non, c'est par rapport à leur séjour au Sénégal, moi, concernant. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire, en fait, en votre...
Enfin, le voyage est prévu pour le mois de février. On avait prévu de visiter déjà Saint-Louis. Il y a un musée aussi, je crois, de... Musée de la Renaissance, c'est ça ? J'ai peur de dire des bêtises. L'île de Gorée, merci. L'île de Gorée.
La Renaissance, après, on va rencontrer des associations locales. Donc, en fait, on a dans l'entourage de l'association des personnes avec qui on collabore, avec qui on travaille, qui sont installées là-bas et qui nous ont prévu, en fait, un certain nombre de rencontres, de visites. Il y a l'idée de rencontrer très certainement aussi, tout au long de notre séjour, une sorte d'incubateur de start-up sénégalais qui, en fait, est des personnes qui créent, en fait, leur entreprise là-bas. Nous allons également visiter la réserve de Fatala, là où il y a les animaux, en fait... de manière un peu libre, une sorte de petit safari, en fait, qu'on fera. De Fatala, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on va s'y aller à... C'est comme ça, Mbour, on dit Mbour ? Mbour, voilà, c'est ça. On va passer pas mal de temps là-bas. On va aussi passer... alors, je ne sais pas si c'est... Ouais, je crois que c'est le temps d'une journée. On va aller dans une ferme qui s'appelle la ferme de Kouloumbari, qui est une ferme, en fait, qui a été ouverte par un couple, en fait, de franco-sénégalais qui vivaient en France. Ils étaient éducateurs, en fait, en région parisienne, il me semble. Et ils sont partis, en fait, s'installer là-bas. Et donc, ils ont ouvert une ferme agroécologique. Donc, ils accueillent des publics. On peut même dormir sur place. Enfin, ils font plein de projets autour de la terre, etc., etc. Donc, c'est super intéressant. Donc, on va les rencontrer. On va également rencontrer, il me semble, un éducateur, je crois, de Bordeaux, de la région de Bordeaux, qui, je crois, travaille maintenant là-bas aussi, qui, je crois, très souvent fait ramener des publics, en fait, de jeunes également là-bas. Donc, l'idée, c'est de faire une sorte de confrontation entre eux et nous, de les rencontrer. Et puis aussi, on a envoyé beaucoup de matériel là-bas, en fait, il y a plusieurs mois de cela, qui sont stockés dans une pièce, en fait. Et en fait, on va organiser des distributions pour des écoles, des villages, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'idée de faire des petits dons à notre petit niveau sur place, voilà, entre autres.
Moi, ma question, c'est par rapport à Karoui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette histoire-là? Parce que c'est une histoire que même les Sénégalais, je ne dis pas tous, hein, maintenant que c'est connu, bon, tout le monde s'est imprégné un peu partout, mais vous, les jeunes Français, je ne sais pas, de Normandie, qu'est-ce qui vous a attiré pour vous connaître cette histoire?
Je prends la parole. Alors, moi, il faut savoir que je suis d'origine tunisienne et je suis fille d'immigrés. Voilà, enfin, je suis pas sénégalaise, mais les histoires, elles ressemblent un petit peu. Voilà, c'était, enfin, mon père, il arrive en France dans les années 80. Et je pense que c'est important d'apprendre nos origines et comment, voilà, il a la difficulté d'arriver en France, de s'intégrer, de devoir travailler deux fois plus, de devoir prouver deux fois plus qu'on est capable de s'intégrer. Et pourquoi le Sénégal? Parce que je trouve que l'histoire, elle est assez touchante et je pense que c'est important à notre âge d'être informé sur ce qui se passe parce que, entre guillemets, c'est nous les nouvelles générations, c'est nous les jeunes adultes et le monde de demain. Et je pense que c'est important qu'on soit assez informé et je trouve ça dommage que, enfin, les jeunes de notre âge, on va être honnête, ils sont de moins en moins informés et ça les intéresse de moins en moins alors que ça fait partie de nous et l'Afrique, ça reste quand même mon continent d'origine et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être informé sur ça et d'avoir beaucoup de connaissances sur ça. Donc merci pour votre discours, c'était très intéressant.
J'ai juste une dernière petite question. Quel est le rapport que vous entretenez aujourd'hui avec la société française par rapport à tout ce qui se passe actuellement, malheureusement, au niveau de l'actualité, avec tout ce dont on parle, le fait est qu'on soit dans une société de plus en plus anxiogène, où les gens font preuve de plus en plus d'individualisme, où on essaie de monter les communautés les unes contre les autres, là où avant on parlait de vivre ensemble, maintenant on n'en parle plus tellement parce qu'on estime que pour bon nombre de personnes ça ne reste qu'un leurre. Comment vous, avec votre âge, votre expérience, le rapport que vous entretenez avec l'histoire en France et aussi avec votre pays, le Sénégal. Et nous, en plus, qui sommes, pour une bonne partie d'entre nous, des personnes originaires de pays africains, quel regard vous portez justement par rapport à l'actualité et aussi à la société française d'aujourd'hui ?
Moi, c'est drôle à dire, mais on est tous plus ou moins des Français, là. Parce qu'il n'y a pas d'immigrés, tous de nationalité française, là, dans cette salle-là. Et bien qu'on se revendique de notre pays d'origine, on est quand même des Français d'intégration. Que lors de nos des indépendances, on était nés et puis on était considérés comme des Français. De ce fait, l'acquisition des nationalités se faisait plus ou moins un peu plus facilement pour ceux qui sont nés avant 60. Enfin, bien qu'on se sent toujours immigré quand même, hein, on se sent toujours étranger. Quelque part, mon pays, c'est le Sénégal, quoi. Parce que c'est mon vécu, c'est ma naissance, c'est mon historique. Et puis, je suis toujours envoyé à mon pays, quoi. Même si je montre ma nationalité française, vous êtes de quelle origine qu'on me demande, quoi. Je me sens toujours africain. Comme tout être humain, hein, c'est blessant quelquefois de nous réduire à certains trucs. Nous aussi, on réfléchit. Nous aussi, on a des vécus. On a des familles. L'immigré est toujours le coupable, le moins qu'à rien, le profiteur, ça fait mal, hein, ça fait mal, mais bon.
Disons qu'avec le temps, l'expérience, les rapports sont, pour me concernant, sont beaucoup plus apaisés, en fait, hein, personnellement. Voilà.
Je voulais peut-être juste ajouter un petit mot, c'est-à-dire j'ai toujours pensé que le mot foyer, ça désigne quelque chose comme un laboratoire de société ou une école. Parce que les résidents qui sont venus et qui se sont organisés, qui ont vécu en foyer, ils nous ont apporté des pratiques, des expériences que ici, personne n'était capable de pratiquer. De l'entraide, de l'humour, de l'accueil, de l'hospitalité, de la découverte, du courage pour trouver le boulot, etc., etc. Ils nous ont apporté des choses et je pense que ça devrait faire partie des programmes scolaires. Ce que les résidents ont apporté à ce pays. Tant que ce pays l'ignorera, il nous manquera quelque chose, quoi. Et l'intégration, ça signifie pas que pour vivre en France, pour être citoyen de ce pays, il faut abandonner sa famille, son histoire, sa langue, sa religion, tout abandonner. C'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut apprendre tout ce qui nous a été apporté par les résidents du foyer. Moi, j'ai le sentiment que j'ai fait quelques études, mais que ma plus grande école, ça a été la connaissance, la fréquentation de mes amis du foyer. Ça, c'est clair, je le dis pas par démagogie, mais c'est parce que j'y ai appris des choses que je n'aurais pu apprendre nulle part ailleurs, quoi, vraiment. Et je pense que ça devrait être revendiqué par le pays plutôt que caché, quoi. Enfin, voilà, c'est un point qui, pour moi, est vraiment important.
Je trouve qu'en fait, les histoires de certains pays qui sont enseignées par l'éducation nationale, en fait, ils restent classiques et très banales. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, à travers une association, on découvre vraiment le terrain du sujet, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, le problème à l'école, c'est que c'est trop classique. C'est juste de l'enseignement dit des paroles, mais l'émotion vécue, par exemple, à travers des rencontres, comme vous, par exemple, qui avez un vécu et une expérience auprès des gens qui étaient avec eux, etc. Là, c'est super intéressant et c'est dit avec émotion. C'est-à-dire que vraiment, on voit vraiment la réalité des choses. Mais le problème, quand c'est trop court, théorie, j'ai l'impression, c'est on se force à apprendre. On se force pas dans le naturel. Ça, le problème, c'est juste.
A dance in New York City last week Saturday night with a big fat mama from Mississippi. I really was uptight.
the band starts swinging with the boogaloo. She says, Sparrow, please, I'm gonna teach this dance to you. Take it back to the West Indies. And she tell me, you got to learn to do me. Mississippi mama started walking up. More she sweat is the more she had.